le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, le micro du soir. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle fois Karolina Dodoussavka, docteur en lettres, maîtresse de conférences au sein de la chaire de philologie romane et germanique à la faculté des langues et littératures étrangères de l'université pédagogique d'État Ion Creanga de Chisinau. Ses sujets de recherche portent entre autres sur les études littéraires et interculturelles, l'identité et la diplomatie culturelle. Elle est également membre de plusieurs comités de rédaction de revues scientifiques et de commissions d'évaluation académique. Et elle va donc nous parler depuis Chisinau, la capitale de la République de Moldavie. Récemment, nous avons reçu plusieurs politologues qui ont analysé les résultats de la présidentielle en Roumanie. Ce soir, j'avais envie d'avoir un regard un peu extérieur, mais pas si extérieur que cela, la Moldavie étant certainement le pays le plus proche de la Roumanie à bien des égards. Karolina Dodoussavka, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois au micro du soir. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais donc commencer notre échange par la principale actualité récente, l'élection de Nicu Jordan au poste de président de la Roumanie, qui a été plébiscitée par près de 90% des Moldaves ayant la nationalité roumaine en Moldavie. De notre côté, j'ai lu que des actions violentes avaient été perpétrées contre ces mêmes électeurs favorables à Nicu Jordan. Diriez-vous, Karolina Dodoussavka, que la schizophrénie moldave entre pro-russes et pro-occidentaux, dont nous avions déjà parlé lors de précédents entretiens, s'est à nouveau pleinement exprimée lors de cette élection?
Je voudrais commencer par merci pour votre invitation. Je suis heureuse d'être de retour à votre micro et c'est toujours un plaisir de participer à une discussion croisée entre Chisinau et Bucarest, qui sont deux capitales proches non seulement par la géographie, comme vous le dites bien, et pas si loin que ça, mais aussi par les liens, leurs profils profonds, ce qui nous unissent du point de vue linguistique, culturel, historique. Depuis la Moldavie, on regarde forcément avec beaucoup d'attention les élections et les évolutions politiques en général de la Roumanie, d'autant plus que notre chemin, le chemin européen de notre pays, dépend en grande partie du soutien et de la stabilité de notre voisin le plus proche. À mon avis, ce phénomène ne s'est pas manifesté que de manière marginale, c'est-à-dire, bon, il me semble que cette polarisation dont vous parlez s'est exprimée de façon plutôt marginale lors de ce scrutin, et l'opinion publique en général n'en a pas été réellement consciente. Cela semble avoir été limité principalement aux espaces numériques, à l'espace en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, sans véritable résonance dans l'espace public au sens large. C'est ce que je pense. Mais pour faire ouvrir une parenthèse et pour une réponse plus développée à la même question concernant cette schizophrénie moldave entre pro-russes et pro-occidentaux, je devrais préciser et commencer par quelques prémices essentielles. Il existe des conditionnements géopolitiques dans notre pays, à la fois positifs et négatifs. La polarisation actuelle résulte des facteurs ethniques, politiques et historiques. Elle s'exprime dans la tension entre deux traditions électorales aussi. Celle des citoyens pro-Roumanie, qui sont ancrés dans une appartenance ethnique qui est bien cohérente et assumée, et celle des électeurs influencés par l'imaginaire slave, à mon avis. Autrement dit, par la pression russe, qui sont encore dans la zone d'influence russe. Les premiers manifestent une fidélité constante il s'agit d'une identité culturelle. Les seconds, en revanche, présentent des signes d'acculturation, c'est-à-dire qu'ils ont intégré des schémas de pensée, des modèles culturels soviétiques, je dirais même une certaine morale soviétique socialiste puis russe. Et ils vivent, à mon avis, un exil intérieur. Ils se sont auto-exilés dans un autre espace, dans un autre temps, tout en restant physiquement, ce qui présente un paradoxe, en République de Moldavie. Et cela crée une forme d'annexion mentale à un autre État. Et un État qui n'existe pas vraiment, mais dans leur imaginaire, cet État existe. Et ce qui les fidélise du point de vue idéologique à la Fédération russe. Et c'est pourquoi ils opposent une certaine résistance, ils manifestent des états d'inhibition, de frustration, et voire des formes de pseudomorphose culturelle, dirais-je. Mmh. Et dans les moments de tension et de vulnérabilité, comme sont les élections, cela surgit, et ces manifestations surgissent. Parfois des manifestations même schizophréniques, parfois des psychoses, mais les dernières sont scénarisées. Et cette schizophrénie identitaire illustre une blessure profonde. C'est le résultat des fractures qui datent depuis longtemps, ce sont des fractures historiques, je dirais même anthropologiques. S'il s'agit d'une anthropologie culturelle et ontologique, dont les citoyens moldaves ressentent encore les effets aujourd'hui et surtout devant les urnes, aux élections. C'est-à-dire les périodes électorales exacerbent ces tensions et constituent un terrain d'observation, de lutte. Et cela pourrait donner donc une perspective de réflexion pour les sociologues, pour les politologues, puisque cela privilégie un terrain d'analyse de ces fractures et de ces formes de résistance, qu'elles soient d'orientation occidentale ou pro-russe. Mmh. Et bref, c'est une schizophrénie chronique, mais qui se manifeste pendant les élections.
Mmh. Pardon, excusez-moi, voilà. Je vous coupe, Karolina Dodusavka. C'est bien noté. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de ce que me commentait le metteur en scène moldave Mihai Fusu, que nous avons accueilli à ce même micro il y a en début d'année, qui me disait qu'il pouvait y avoir également, hein, je reviens à ce que vous dites sur cette fracture slave et occident de notre côté, il peut y avoir des russophones qui votent pro-européens et des roumanophones pro-russe. Donc il y a aussi ce genre de nuances. Ou pas?
Ouais. Mmh. En Moldavie, ce ne sont ni l'appartenance ethnique ni l'identité linguistique ou culturelle qui déterminent les choix électoraux. Pour vous dire bref, une réponse voilà courte et concise, mais c'est l'orientation géopolitique. Ainsi, les russophones peuvent voter pour l'Europe, ouais, il y a des cas, tandis que les roumanophones peuvent soutenir des partis pro-russes. La géopolitique prime sur l'identité linguistique, et c'est ça l'explication. Mmh. Il est quand même révélateur que même les Moldaves installés, pour vous donner un exemple, à Iași en Roumanie ou à Québec au Canada, pour vous donner deux exemples aléatoires, je dirais, et voter pour les formations russes. Cela confirme que le critère géopolitique est plus structurant que celui de la langue ou de l'origine. Mmh. Et voilà, ça se manifeste, l'image pro-européenne ou pro-russe prévaut sur les contenus réels des plateformes politiques et des partis politiques. C'est le vecteur qui l'indique et puis on s'associe à cela. Voilà.
Mmh. Oui, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous, je vous interromps une nouvelle fois, sur le même sujet, est-ce que vous diriez toutefois que la tendance pro-européenne est en train de gagner, entre guillemets. Le ministre moldave de l'énergie, Dorin Junghiet, est venu à Bucarest récemment et il a affirmé que les Moldaves comprenaient toujours plus que leur chemin se devait d'être européen et que même en Gagaouzie ou dans les zones russophones, le vote pour Nicu Jordan a prédominé. Est-ce aussi votre sentiment que dans cette schizophrénie dont on parle, de par les événements géopolitiques, je pense évidemment à la guerre en Ukraine et cette élection de Nicu Jordan en Roumanie, et vous sentez que le courant européen est en train de gagner la bataille, ce serait un petit peu trop tôt pour le dire, mais est en train d'avoir davantage de prise sur les Moldaves.
Oui, je partage ce constat sur cette tendance, oui, et il reflète la réalité. Les Moldaves comprennent de plus en plus que leur avenir réside dans le cadre européen, y compris dans les régions traditionnellement pro-russes, comme vous avez mentionné la Gagaouzie ou les zones russophones. Le vote en faveur de Nicu Jordan dépasse la simple admiration pour une figure politique roumaine. Ce vote exprime une volonté de croissance, de rapprochement avec l'Europe et des valeurs démocratiques et bien sûr du modèle européen de gouvernance. Cela dit, la situation sur le terrain demeure nuancée. Les zones, par exemple, majoritairement russes, comme Belce, qui est une ville au nord, Oknitsa, Brichen, qui sont des villes plus petites, mais toujours au nord, ou la Gagaouzie, qui est au sud, ne constituent pas un bloc électoral uniforme. Il y a des Russes, il y a des Moldaves qui parlent roumain ou russe. Selon plusieurs experts, en sciences politiques ou certains sociologues, on doit les croire, il est illusoire de penser que la population russophone vote massivement en faveur de l'intégration européenne. C'est-à-dire, il y a des exemples, ce que vous dites, ce sont des exemples individuels, cela existe, cela se manifeste, mais il révèle davantage de l'exception que de la norme.
Je comprends, oui. Concernant les élections en septembre, les élections parlementaires donc, parler des récents sondages, ce n'a pas trop d'utilité parce que septembre, c'est encore un petit peu loin. Mais j'en discutais avec une journaliste moldave que pour l'instant, on était peut-être à 60% pour les pro-européens et 40% pour les pro-russes. Est-ce que ce serait grosso modo ce qu'on pourrait dire aujourd'hui?
Oui, on doit les croire. Nous, on ne fait pas de sondage. Nous, on observe, on écoute, on lit, on filtre. Mm-hmm. Mais je sais que cela change.
D'un courant pro-européen plus important.
Oui, mais bon. Notre enjeu, c'est quant au soutien de la Roumanie. Les autorités moldaves, la position officielle et j'espère qu'une grande majorité de la population mise avant tout sur la coopération, puisqu'il y a une coopération énergétique qui est très importante, c'est-à-dire il faut voir les enjeux stratégiques aussi, notamment à travers les projets d'interconnexion avec les réseaux roumains par exemple. C'est un axe stratégique dans un contexte régional très important, dans un contexte régional très instable, et je dirais que c'est un contexte brutal puisqu'il s'agit de la guerre, c'est-à-dire il faut quand même voir la réalité et choisir bien ou faire les bons choix face aux pressions géopolitiques exercées par le Kremlin dans le secteur énergétique et tout, dans tous les autres secteurs. Et j'espère que la raison lucide ou la lucidité va quand même emporter ces élections.
Très bien. Alors, je vous remercie déjà, Karolina Dodusavka, d'avoir répondu à ces questions qui étaient plutôt d'ordre politique, mais j'avais envie de vous les poser parce que je sais que vous y répondez très, très bien. Alors maintenant, revenons à des questions, disons, plus littéraires. À la femme de lettres que vous êtes, enfin relativement plus littéraire. Qu'est-ce qui attire votre attention quand vous lisez la presse roumaine depuis Chișinău? Déjà parle-t-on, d'après vous, suffisamment de la République de Moldavie? Et en quoi les leaders d'opinion ici sont-ils différents dans leur prose par rapport au texte d'intellectuel moldave? Excusez-moi, c'est plusieurs questions que je vous pose en même temps.
Bon, j'essaierai de vous donner donc des réponses à plusieurs paliers. Depuis Chișinău, la presse roumaine revient souvent observer à la fois, déjà si vous avez annoncé qu'on passe à mon profil littéraire, bon, j'utiliserai ici une métaphore. Donc, on observe à la fois l'effet de miroir et de fenêtre, je dirais, puisque ce qui attire mon attention, c'est cette double tension. Parfois, c'est le miroir qui reflète, mais bien sûr, on reflète, voilà, les reflets sont parfois toujours à moitié, ou une fenêtre plus ou moins largement ouverte vers nous et envers, voilà, notre contexte. Cette tension, elle crée, voilà, un effet de proximité et de méconnaissance. Parfois, je lis quelque chose et je dis « Ah, très bien, oui, bien, c'est juste. » Bon, de mon point de vue. Et puis, je lis quelque chose, je découvre et je dis « Ah oui, ben, pas vrai. » Ça dépend, c'est-à-dire, voilà, pour vous dire, voilà, quelles sont mes réactions. Mais, en général, c'est entre solidarité. Ça existe, une solidarité, oui. Et de l'autre côté, il y a quand même, il faut le dire, il y a une indifférence sporadique pour ce qui se passe ici chez nous. Et en général, pour être honnête, je ne m'attarde pas trop sur les sites d'actualité. Mais ce qui attire mon attention tout de même lorsque je consulte la presse roumaine, ce sont les articles sur la vie politique, sociale, économique, les relations bilatérales. J'apprécie beaucoup quand je vois la visibilité de notre présidente dans la presse roumaine et de ce qu'elle fait, ainsi que certains reportages consacrés à la Moldavie sur Radio France Internationale Roumanie. J'apprécie vos actualités, les actualités, podcasts, vidéos, les analyses.
Qui est diffusé à Chișinău, RFI Roumania, qui est diffusé à Chișinău, il faut le dire.
Oui, permettez-moi de continuer et de dire que je lis votre revue, les bulletins, Le Regard, qui aborde des thèmes pertinents liés à la Moldavie et reflète bien le rythme et les repères de notre vie culturelle, surtout. Vous m'avez posé la question si ça se reflète suffisamment ou non. C'est-à-dire, parle-t-on suffisamment de la République de Moldavie? Oui, lors des moments clés, comme élections, événements politique majeure, tensions régionales, visites officielles, mais ce qu'on raconte moins, ce sont déjà les nuances intérieures, les dynamiques internes de notre pays.
Et le quotidien.
Le quotidien, bien sûr. Ah bon, mais avec le quotidien, je n'ai pas donc on n'attend pas peut-être d'être reflété, mais quand même, il y a des frictions identitaires, des subtilités qui sont liées aux fractures sociales. Et parfois, il y a des initiatives culturelles du fond et des voies émergentes importantes qui pourraient être passées dans la presse roumaine pour dépasser le cadre classique des actualités.
Mmh. Et est-ce que vous reconnaissez... Pardon, excusez-moi, Karolina Dodusavka. Oui, continuez, excusez-moi, oui.
Pardon, et là j'ai voulu juste dire que la Moldavie reste parfois un objet médiatique, mais pas un sujet dialogique, un sujet du dialogue. Mmh. Mais en général, la presse roumaine consacre suffisamment d'espace et j'espère qu'après la formation du gouvernement à Bucarest, du nouveau gouvernement, encore plus de temps et encore plus de visibilité seront accordées aux priorités liées à l'avancement des processus d'intégration européenne de la Moldavie. Vous m'avez encore posé la question sur les leaders d'opinion et les intellectuels. Là, la distinction est intéressante, mais elle est perméable, elle n'est pas tellement... je ne peux pas les diviser ou les mettre en deux catégories, parce que les premiers ont souvent le souffle court, ils écrivent vite.
Quand vous dites les premiers, les leaders d'opinion roumains
Vous voulez leaders d'opinion roumains?
Oui, je voulais la différence entre. J'étais en train de me dire également, ça dépend de quels intellectuels moldaves on parle. Si ce sont plutôt des russophones ou des roumanophones, là aussi il doit y avoir une distinction. Mais dans l'état d'esprit, dans la façon dont ils analysent les choses, qu'est-ce qui départage un petit peu, on va dire, l'intellectualisme à la roumaine de l'intellectualisme à la moldave.
Ah, mais là, je dirais que le discours roumain, mais vous savez, les généralisations et elles ne sont pas toujours pertinentes. Et ce que je dirais, ça serait, donc c'est juste une règle qui a beaucoup d'exceptions et même pas une règle. Le discours roumain ou le discours public en Roumanie, il semble être plus structuré et il cadre plus avec l'appareil critique occidental. Il est plus articulé et plus critique, parfois plus acerbe, plus nuancé. Chez nous, le discours, parfois, il reste encore assez timide. La voix publique, elle existe, mais elle n'est pas tellement... Elle analyse, fait des synthèses, mais pas avec une réflexion très critique. Mais chez nous, on a quand même la tendance de rester dans l'urgence. Le style, par exemple, de nos leaders d'opinion, il est frontal, accrocheur, parfois provocateur, mais en Roumanie, tout ça cadre avec beaucoup de références. Parfois, le discours est plus théorisé. Mais pour les deux, la voix publique, le discours en Roumanie et le discours en Moldavie, la mission est d'interpeller, d'alerter le public, de mobiliser le public. Mais déjà, le style est un peu différent. De toute façon, ce qui réunit, c'est... on les lit pour rester dans le rythme, pour sentir ce qui se passe, pour voir... Vous avez déjà mentionné qu'il y a des voix pro-russes ou pro-occidentales.
Lesquelles sont majoritaires, d'ailleurs, dans les leaders d'opinion en Moldavie? Plutôt les pro-occidentales ou les pro-russes? Encore une fois, c'est une généralité, mais...
À mon avis, je dirais que dernièrement, il y a les voix qui parlent en roumain et en russe et qui s'expriment en faveur de l'Europe. Mais il y a une presse de langue russe aussi importante. Là, ce n'est pas le critère linguistique, mais c'est l'orientation. Ils sont orientés plutôt vers l'ouest ou plutôt vers l'est.
Petit aparté, est-ce que vous rencontrez des Bucarestois à Chișinău? Enfin, à Bucarest, je rencontre rarement des Roumains qui auront pu voyager un petit peu partout, mais qui auront passé quelques jours à Chișinău. On les compte vraiment sur les doigts de la main, enfin de mon expérience personnelle. Est-ce que vous en rencontrez des Roumains qui sont de passage à Chișinău, peut-être plus qu'il y a quelques années, ou pas vraiment?
Je ne peux pas constater, pour vous dire un terme, une dynamique positive. positive ou négative. Je pense que je n'ai pas observé cela. Vous m'avez maintenant poussé à une réflexion. Je vais être peut-être plus attentive à ce phénomène. Mais une fois que je n'ai pas constaté ni un déclin, ni, plus de cœur espoir.
Excusez-moi, je vous pose la question parce que c'est, moi, ça me surprend toujours ça me surprend de voir que si peu de ne serait-ce que, en tout cas pour les Bucarestois que je connais, connaissent Chișinău et je les pousse toujours à découvrir cette ville qui a beaucoup d'attrait à bien des égards.
Oui, bon, quand je croise des Bucarestois ou des Roumains, c'est plutôt lors des conférences, des événements. Oui. Mais dans la rue, non, peut-être c'est ma faute. Je me promène moins, surtout dans les centres-villes, vu mon agenda saturé avec des événements.
Alors précisément, parlons un petit peu de, non pas de votre agenda, mais quelque chose de très concret qui a trait à votre recherche. L'année dernière, j'ai vu, je n'ai pas lu, mais j'ai vu que vous aviez écrit un texte sur l'évolution de notre imaginaire collectif dans le contexte d'une numérisation omniprésente. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce texte, mais cela m'a fait penser à votre rapport à l'univers numérique actuel. Comment vous le vivez-vous et qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, merci pour avoir mentionné ce texte et merci pour cette question. Je crois que nous vivons tous, à notre manière chacun, mais nous vivons tous une immersion numérique. Mais pour ma part, c'est devenu presque un mode de vie. Même cette interview le démontre. Mon quotidien se déroule entre plusieurs fuseaux horaires, entre plusieurs langues et surtout entre plusieurs formats numériques. Je dois dire que je vis l'univers numérique comme une réalité à la fois fascinante et à la fois épuisante. D'un côté, je suis émerveillée par la souplesse qu'il offre cet univers dans mon travail. Il m'arrive dans la même semaine ou parfois dans la même journée de faire un cours en anglais en ligne avec mes masterants qui sont professeurs dans différents lycées, écoles et universités moldaves, c'est-à-dire je couvre un cadre national. Puis d'enchaîner avec un webinaire en français transmis depuis France. Ensuite, je peux participer à un workshop animé par une collègue depuis les États-Unis. Puis je présente une communication dans un colloque à Thessaloniki en Grèce, puis dans une conférence organisée à une université de Tiaret en Algérie. Et entre deux, je peux revenir à une réunion en roumain. Sur une coordination, projet, thèse, synthèse et tout ça. Je peux siéger dans un comité et tout cela se passe devant l'écran, en ligne. C'est-à-dire, mon agenda déborde parfois littéralement d'activités hybrides, ce qu'on appelle maintenant figital. C'est un monde, ce monde imaginaire. L'imaginaire numérique, il est omniprésent et déjà omnipotent, puisqu'il semble accessible. Il est à la portée d'un clic et tout est accéléré. Mais au-delà de nos agendas surchargés, ce qui me frappe, c'est la manière dont le numérique transforme notre imaginaire. L'imaginaire de s'y développer. Il est très liquide. On ne peut pas déjà établir des frontières. Et cet imaginaire liquide, il est ubiquitaire, il est insaisissable et invisible, même quand on éteint les écrans, il habite dans nos gestes, dans nos routines, pour ne pas dire dans nos rétines. Oui. Et dans nos attentes aussi, parce qu'il laisse des traces profondes des algorithmes concrets d'un jour à l'autre. Et déjà, ça transforme ou ça influence nos manières de penser, d'aimer, d'apprendre, d'agir. Voilà.
Une question à l'enseignante que vous êtes. Comment décririez-vous l'état d'esprit de vos étudiantes et étudiants? Est-ce que l'envie de partir de Moldavie, en tout cas pour une expérience à l'étranger pour un temps, elle est toujours aussi forte qu'avant? Ou alors, à Chișinău en tout cas, vous sentez qu'il y a davantage de jeunes qui ont l'intention de faire carrière dans cette ville?
L'état d'esprit des étudiants et étudiantes moldaves aussi entre espoir, prudent et fatigue. Parfois, il y a une fatigue lucide, assumée. Certains sont portés par l'élan du changement. D'autres sont désabusés et envisagent de partir. Mais ce constat me donne une autre idée. Cela a toujours existé. Du but, toujours il y a donc certains qui sont plus mobilisés et les autres qui sont plus désabusés. Mais surtout, ces postures ne sont pas fixes parce que leurs attentes bougent, changent, se modifient au rythme du contexte, le contexte socio-économique, politique, social. Et en les observant, je crois qu'ils sont d'une certaine manière mieux préparés que nous, les générations déjà avec une certaine expérience de vie. Ils sont mieux préparés que nous à affronter les incertitudes parce que c'est leur façon d'être déjà, l'incertitude, le changement, le rythme accéléré. Et beaucoup ont compris que dans un monde en mutation rapide, les compétences ont une durée très courte. Nous, on a été formés pour une bataille de longue haleine, pour 20, 25 ans. Maintenant, quand on forme des compétences, c'est pour 2, 3, 4 ans. C'est ce que dit aussi le Forum économique mondial, qu'une compétence, elle est valable, elle reste importante pour 2, 3, 4 ans et c'est tout. C'est-à-dire, cela les rend flexibles et les étudiants comprennent très bien, ils sont plus conscients de la nécessité d'apprendre en continu. Mais pour dire qu'il y a une envie de partir ou de rester, cela dépend d'un cas à l'autre et cela change, puisque ceux qui choisissent de rester pour suivre un cursus de premier et deuxième cycle ont souvent une vraie volonté de construire quelque chose ici et forment parfois une famille. Mais il n'y a pas de règle générale. Pour beaucoup, la décision se construit pas à pas. Pour d'autres, c'est une décision conditionnée par un contexte, par une urgence. Ils vivent au fil des opportunités et parfois au fil des rencontres et des contraintes aussi.
Est-ce que le fait que la Moldavie ait commencé ses négociations d'intégration dans l'Union européenne, hein, parce qu'elle a été d'abord pays candidat et maintenant il y a les négociations, si je ne me trompe pas, ont commencé, est-ce que cette perspective-là a un impact et fait que ces jeunes se disent que le pays va offrir toujours plus d'opportunités?
Oui, on pourrait l'affirmer, puisque leurs espoirs sont dynamiques, comme le contexte dans lequel ils évoluent. Mais j'ai observé chez eux, j'ai dit, moins de peur pour reformuler, c'est-à-dire l'incertitude pour eux, ce n'est pas, parfois ça les mobilise plus. Il y a certains qui partent à l'étranger pour une bourse de mobilité, pour 2-3 mois, pour un stage de courte durée, mais ce qui se transforme dans un projet de vie d'une dizaine d'années. Et puis, il y a certains qui rentrent et certains qui se déplacent d'un pays à l'autre. C'est-à-dire, il y a des catégories, plusieurs catégories. Il n'y a pas seulement ceux qui restent et ceux qui partent. Et oui, vous avez raison, leur envie de rester ou de partir dépend souvent des faisceaux de facteurs dont les résultats électoraux, oui, bien sûr, qui donnent le ton d'un avenir proche. Mais ce n'est pas donc un simple choix ni géographique, ni parfois je pense que c'est juste une réponse sensible, très personnelle, très intime de la personne qui prend cette décision, plutôt que de la dynamique du pays. Quoique pour la dynamique du pays, ça c'est déjà confirmé par les statistiques. Ouais, c'est la règle générale. Ouais.
Carolina de Dusavka, une dernière question, très simple. On va revenir à votre ville, Chișinău. Pourquoi vous l'aimez?
Bon, c'est rarement qu'on me pose cette question. Peut-être une... Je peux compter sur les doigts d'une main. Bon, pourquoi j'aime Chișinău? C'est une... pour une réponse officielle. Parce que c'est la capitale, parce que c'est une capitale accueillante.
Officiel et non officiel, hein, si vous pouviez. Ce qui m'intéresse, c'est votre sentiment personnel vis-à-vis de cette ville.
Oui, oui. Je sais, mais je commence. C'est le préambule. Voilà. Et c'est une capitale inégale aussi, mais que chacun protège, moi aussi, par un geste quotidien et par un geste discret. Mais pour moi, j'aime Chișinău d'abord pour les miens. Il n'y a pas une réponse originale là. C'est ma sœur, mon frère avec leur famille. C'est aussi la ville où mon père a fait ses études. Et leur maison est à 3h30 de chez moi maintenant. Bon, j'apprécie la ville pour mes amis, mes collègues, pour les réseaux que j'ai, les réseaux humains que j'ai créés ici et qui rendent l'ambiance de Chișinău plus chaleureuse pour moi, malgré certains coins gris de la ville. Voilà. J'aime surtout les parcs. Où je peux respirer, me promener.
Oui, ça c'est assez extraordinaire. Hein. Avec Chișinău, vous avez des vraiment, c'est un espace. Il y a beaucoup d'espaces verts. Excusez-moi, je vous coupe. Une amie, donc cette même amie journaliste, me faisait remarquer une chose en plein centre de Chișinău. Vous avez des arbres très hauts. Alors, Bucarest ne peut pas trop se plaindre, c'est une ville très arborée hein, par rapport à d'autres capitales européennes, mais la taille de vos arbres en plein centre-ville sont absolument extraordinaires, notamment au niveau du parc qui est à côté du Parlement, je crois, c'est assez surprenant, c'est vrai que ça m'avait marqué. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé.
Oui, non, mais j'aime mieux écouter vos impressions, ce que vous avez constaté, vos sensations ce que je peux dire sur Chișinău, parce que pour moi, ça dépend d'un jour à l'autre, c'est différent. Je disais que j'adore les parcs et on dit déjà même, c'est comme un syntagme de chrestomathie quand on dit la ville de Chișinău est baignée de verdure. Oui, c'est vrai et c'est ce qu'on adore. Mais j'adore aussi les bibliothèques qui ne sont pas seulement un lieu de silence, de recherche, mais aussi des espaces vivants avec des lancements de livres. J'adore me retrouver avec mes amis quand on lance un livre, quand on discute, quand il y a des lectures théâtralisées, des conférences, des débats. Chișinău est aussi une capitale à taille humaine, pas trop grande. Et là, elle concentre tout ce que j'aime. Université, avec S pluriel, les universités ou des universités, des théâtres, des spectacles, tous ces lieux me donnent l'occasion revoir mes amis, pour des discussions ouvertes, sans oublier bien sûr les cafés, les cafés où l'on se retrouve.
Il y a les bars à vin aussi, je crois, hein. Il y a une belle culture de bars à vin qui s'est développée à Chișinău.
Oui, c'est vrai. La diversité culinaire et vitivinicole, oui, ça c'est vraiment important chez nous et on peut déjà savourer les arômes, saveurs moldaves traditionnelles, mais aux influences françaises, italiennes, orientales, c'est-à-dire on peut faire aussi un véritable voyage de goût à Chișinău parce que plusieurs touristes ou nos collègues qui... nos visites ici pour une conférence, un colloque ou visite, voyage de ou pour un petit séjour, ils constatent voilà ces saveurs de notre cuisine, voilà ce qui nous flatte.
Mais Caroline,
moi,
oui.
Chisinau est un repère concret, bien sûr. C'est un fait de rencontre, ouais. Et c'est un bon rythme quotidien. Il est à Chisinau et c'est l'histoire partagée avec ma famille et mon réseau personnel. C'est une ville vivante, imparfaite mais pleine d'énergie. Et déjà, vous savez que chaque fois qu'on visite un lieu, on y investit de son énergie. Et quand je me rappelle dans nos imaginaires, oui, pour repérer ce terme à nouveau, donc dans nos imaginaires, dans notre carte mentale, il y a des villes qu'on a visitées associées à une certaine émotion, énergie, expérience intime, voilà. Mais pour moi, c'est le nœud existentiel.
Eh bien, c'est une. On va terminer sur cette belle expression, Chisinau, votre nœud existentiel. En tout cas, j'espère qu'on aura donné envie aux auditrices et auditeurs du micro du soir d'aller la visiter, cette ville qui est vraiment pas loin. Et je vous remercie infiniment, Caroline Dodousovka, d'avoir. De vous être prêtée à l'exercice des questions plutôt politiques et puis après davantage sociologiques et culturelle. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir de vous avoir et nous saluons les auditrices et auditeurs moldaves qui nous écoutent nombreux à Chisinau. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et chères auditrices, chers auditeurs, nous vous souhaitons un bon week-end. Bon week-end à la ville de Chisinau encore une fois et à très bientôt. Weekend Plakout. Au revoir.
Le micro du soir, Aïchla RFI.